BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler évidemment d'intelligence artificielle, on va parler d'Elon Musk. Deux invités avec moi ce soir, mais surtout déjà en studio avec nous. Florian Doueto, qui est le cofondateur et PDG de Dataiku. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes la licorne de l'intelligence française. En tous les cas, c'est comme ça qu'on vous présente. Vous avez 1000 salariés, vous êtes ce qui est rare pour une entreprise française, surtout dans l'IA. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu partout dans le monde. Vous travaillez pour toutes les grandes entreprises françaises. Et puis ensuite, ça sera Julie Errenti, qui est donc la cofondatrice de Pollen. Elle était l'ex-directeur général de Vivatech. Je crois que vous la connaissez, comme ça sera l'occasion de faire un focus sur Vivatech. Visiblement, on a l'impression que c'est surtout les startups qui sont venues en milliers pour trouver des financements. Florian Doueto, d'abord un commentaire. Je ne sais pas si vous avez entendu le tacle d'Elon Musk à OpenAI en disant, en fait, ce qu'il développe, grosso modo, c'est une intelligence artificielle qui développe le mensonge. Qu'est-ce que vous le connaissez bien, Elon Musk ?
Je pense que Elon Musk, il part de l'idée qu'en fait, toutes les vérités sont bonnes à dire. Et je pense que les AI, en fait, elles ont encore besoin d'apprendre à communiquer. Et communiquer, parfois, c'est pas dire la vérité. C'est comprendre ce que les personnes sont prêtes à entendre, comprendre comment l'informer. Et c'est ça que, je pense que c'est ça qu'Elon Musk mentionnait quand il parlait d'OpenAI et Gemini. C'est qu'en effet, des fois, elles sont obligées de prendre des gants, de communiquer d'une certaine façon. Mais je pense qu'en fait, elles apprennent à être humaines. Comme nous.
Ouais. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup développé la notion de vérité et de mensonge. Ouais, c'est drôle, quand je pense à intelligence artificielle, je ne pense pas forcément vérité et mensonge. Je ne fais pas de la philosophie. Vous faites de la philosophie, vous ? Vous êtes un des premiers Français à vous être intéressé à l'intelligence artificielle. Vous êtes normalien, là, vous avez fait un switch entre la philosophie et l'intelligence artificielle.
C'est vrai que j'ai commencé, quand j'étais petit, à faire un peu de philosophie, et j'adorais ça. Mais en effet, quand on réfléchit à l'intelligence artificielle, on est obligé de réfléchir à ses impacts, on est obligé de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et quand on pense à l'intelligence artificielle et à sa manière de communiquer, on est obligé de réaliser qu'en fait, toutes les vérités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et du coup, je pense qu'à cause de ça, il n'y aura pas qu'une seule intelligence artificielle pour toute la planète. Parce que tout le monde n'est pas d'accord sur tout. Et donc, du coup, il y aura potentiellement plusieurs intelligences artificielles qui seront plus précises, qui auront certains avis et qui correspondront finalement aux opinions un peu plus de chacun.
Mais par exemple, Mistral, Arthur Mach, que vous connaissez aussi, forcément, lui, il développe quoi ? Il développe quel mensonge ou quelle vérité ?
L'enjeu actuel n'est pas, pour les gens qui développent des intelligences artificielles, des questions de vérité ou de mensonge. Je pense que c'est pour beaucoup d'entre eux, c'est dans cet écosystème comment développer plus rapidement possible des intelligences artificielles qui sont assez performantes, qui permettent de répondre à nos problèmes de quotidien, qui vont ensuite être dans nos téléphones et qui vont aussi résoudre toutes les problématiques d'entreprise qui sont à venir pour qu'elles puissent utiliser l'intelligence artificielle.
Alors, Dataiku, vous êtes, donc je disais, vous êtes une des pionniers de l'intelligence artificielle, du moins en France. Vous êtes un peu partout dans le monde. Vous avez 1000 salariés. Je trouve énorme quand même pour une... Enfin, ce n'est pas une start-up, mais enfin, pour une licorne, c'est quand même énorme, 1000 salariés.
Dataiku, c'est une aventure de 10 ans. Oui. Et en effet, maintenant, on a quelques centaines de grands clients dans le monde. Oui. À peu près la moitié des entreprises du CAC 40 comme clients, plus de la moitié maintenant. Et en effet, pour ça, on a une R&D qui est basée à Paris, de quelques centaines de personnes, qui nous permet de continuer à faire évoluer notre produit.
Et votre produit, en fait, ce que vous faites, vous, c'est vous avez un logiciel qui permet de gérer la data qui est générée par l'intelligence artificielle.
Ça permet en fait aux entreprises de créer leur propre intelligence artificielle, leur propre modèle, en utilisant leurs données, en utilisant la data. Parce qu'en effet, chaque entreprise a sa propre data, sa propre vérité, et chaque entreprise a besoin de créer ses propres modèles d'intelligence artificielle prédictifs, ça veut dire ceux qui permettent de prévoir un prix, prévoir le temps qu'il fait, prévoir la demande et le nombre d'objets qui seront achetés ou vendus, et les intelligences génératives qui permettent de créer du contenu ou d'interagir différemment avec les clients.
Oui. Du reste, demain, vous intervenez à Vivatech, justement, sur l'intelligence artificielle et les entreprises, et toutes les grandes entreprises sont présentes là-bas. L'enjeu, est-ce que vous diriez que les grandes entreprises, surtout, est-ce qu'elles sont prêtes ? Est-ce qu'elles elles sont suffisamment avancées sur l'intelligence artificielle ?
Je pense que les grandes entreprises, en fait, ont conscience qu'il y a un besoin d'avancer maintenant. Parce que l'intelligence artificielle, c'est le sujet, en fait, qui va peut-être, pour certaines d'entre elles, déterminer si elles sont encore compétitives dans 5 ans ou 10 ans. Mm-hmm. Je pense que les grandes entreprises sont conscientes que évidemment, adopter l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un projet de 5 ou 10 ans pour les entreprises, mais pour lequel la transformation commence maintenant. Et les dirigeants les plus courageux, c'est ceux qui sont prêts à prendre ces risques.
Oui. Est-ce que vous diriez que la France a peu compté dans l'intelligence artificielle ?
Je pense que la France est un pays dans lequel il y a beaucoup de talent dans l'intelligence artificielle, mais où, en effet, maintenant, il y a un engagement du secteur public et un écosystème qui grandit, mais dans lequel, en fait, il faut pouvoir transformer ça en quelque chose dans lequel les entreprises s'engagent dans des transformations de fonds, lancent des investissements beaucoup plus conséquents, et dans lequel on a tout un écosystème de start-up qui, après s'être créé, vont aller chercher des fonds partout dans le monde et des clients partout dans le monde pour, en effet, atteindre le niveau que l'écosystème français mérite d'avoir.
Parce que vous dites que vous avez le centre de recherche qui est ici. Vous êtes donc normalien, vous aussi. Vous dites qu'on a les meilleurs ingénieurs en France. Est-ce que c'est vraiment vrai, j'ai envie de dire? Parce que vous avez commencé à New York, hein, je crois, du reste, enfin aux États-Unis, en disant que c'est important de développer ces logiciels d'abord aux États-Unis. Mais est-ce que les Français, c'est vrai qu'ils sont très bons, parce qu'on a loupé quand même, on a loupé le cloud, on a loupé l'Internet, enfin la liste est très longue de tout ce qu'on a manqué comme révolution. Là, il ne faudrait pas la manquer quand même.
Je pense que pour ne pas la manquer, il faut qu'on soit conscient qu'il ne s'agit pas juste en fait, d'annoncer le fait qu'on ne va pas la manquer et de dire qu'on est les plus forts, mais qu'en effet, qu'on fasse des choses. Et qu'en effet, dans l'écosystème français, il y a le besoin d'être plus dans l'action. Mm-hmm. Il y a, dans cet écosystème français, beaucoup de talents. En fait, on a des très bons ingénieurs, des très bons cursus de formation, et il est pour l'instant pas exploité à son potentiel plein. Mm-hmm. Quand on dit qu'on a les meilleurs ingénieurs, on veut dire plus précisément qu'on a des ingénieurs bien meilleurs et un nombre bien plus important que ce que la plupart du reste du monde croit.
Mais ouais, est-ce que ça veut dire que est-ce que c'est suffisant? Vous avez Google, hein, qui est dans votre capitale, donc c'est quand même impressionnant d'avoir Google. J'imagine c'est aussi ça qui vous booste. Hein.
Oui, on a plein de partenaires financiers. Oui, en effet,
Google,
des partenaires
c'est
financiers,
pas n'importe qui.
Et dont des partenaires financiers, beaucoup de partenaires financiers américains. En effet, je pense qu'il faut être conscient que dans cet écosystème qui est globalisé, il faut aller chercher ses clients et chercher les capitaux partout. Et qu'il y a ce besoin finalement pour les entreprises françaises de comprendre qu'on a la capacité en France de construire des produits différents, d'avoir des centres de R&D très différenciés, mais qu'il faut aussi savoir aller s'exporter et se tourner finalement vers le monde.
Mais est-ce que c'est réaliste d'imaginer qu'on puisse... avec peut-être Mistral ou d'autres, vous pouvez lutter, faire face aux Microsoft, Google ou Alphabet?
Alors, il ne s'agit pas potentiellement d'être plus gros que Microsoft demain ou après-demain, voire même dans 5 ans. Mais dans le logiciel, en fait, il y a des centaines d'entreprises de grande taille aux États-Unis. Pour l'instant, en France, il n'y en a que quelques-unes. Et en fait, l'enjeu pour l'écosystème français, c'est dans ce domaine de la tech, de créer ces quelques dizaines d'entreprises qui seront ensuite les fleurons de demain, dont peut-être ensuite, dans 20 ans, émergera le Google ou l'Alphabet français.
Oui. À votre avis, Emmanuel Macron a annoncé 400 millions d'euros consacrés à la formation des spécialistes en IA, création d'un nouveau fonds d'investissement pour développer toujours l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est à la mesure de l'enjeu sur l'intelligence artificielle?
Pour moi, l'enjeu principal, il va être dans les entreprises. C'est pas les annonces.
C'est pas tellement le fond, vous pensez?
Je pense que l'enjeu principal, une fois que ces annonces sont faites, c'est de savoir si toutes les entreprises françaises vont assez vite en fait dans leur investissement dans l'intelligence artificielle, dans leur transformation. Si les dirigeants prennent la mesure de cette transformation là, parce que c'est ça qui aura un impact le plus important finalement sur l'économie française.
Est-ce que demain, c'est ce que vous allez dire à toutes les grandes entreprises? Vous parlez sur ce sujet. Vous trouvez qu'elles vont, parce que la grande difficulté, c'est l'accélération de cette intelligence artificielle, et vous trouvez que les entreprises, elles ont trouvé la solution, enfin l'organisation nécessaire?
Je pense qu'elles n'ont pas encore trouvé toute l'organisation nécessaire, mais il faut comprendre que le changement, c'est maintenant. Il va y avoir plus de changements dans les 5 années à venir que dans les 5 années passées, et une bonne partie de ce changement sera l'intelligence artificielle qui va changer les manières de travailler.
Ouais.
Et pour les entreprises, il y a cette urgence en fait de prendre en main ces sujets, de oser innover, de oser investir. Beaucoup de nos clients en fait font ce pari, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont nos clients, mais je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont réaliser que, et surtout parmi les grandes entreprises, que si elles ne veulent pas être dépassées par d'autres qui auront fait ces investissements avant eux, elles ont besoin de le faire dans les années qui viennent.
Est-ce que vous trouvez les fonds nécessaires, vous, Dataiku, vous, Florian Joiteau, est-ce que vous trouvez les fonds nécessaires?
on a eu la chance, grâce à notre produit, à son rayonnement, en fait, de trouver les partenaires financiers dans les 10 dernières années, qui nous ont permis, en fait, de continuer ce développement de l'entreprise et d'investir dans notre R&D de manière continue.
Oui, c'est toujours la question qu'on vous pose. Florian, c'est l'introduction en bourse. Oui, non, quand, où?
Alors moi, je me focalise sur mes clients.
Oui, je me focalise moi, je vous pose une question, donc vous pouvez.
Et je me focalise en effet sur mes clients. Je pense que je vois l'introduction en bourse. Je le dis ça parce que je vois l'introduction en bourse comme un moyen. C'est un moyen permettre à nos clients de mieux comprendre ce qu'on est, de créer le rayonnement autour de l'entreprise. Et en effet, de trouver encore plus de partenaires financiers, parce que si on veut créer non pas les licornes de demain, parce que la licorne, entre guillemets, c'est une commodité du point de vue de la technologie globale, mais si on veut créer les grandes entreprises qui perdurent, et qui crée sur le sol français des centres de R&D qui ne sont pas en quelques centaines mais en quelques milliers, ben en effet, il faut passer par cette étape d'introduction.
Donc, vous allez rentrer en bourse. Maintenant, vous avez répondu à la première question. La deuxième question, c'est quand et où? Quand vous avez déjà... Bon, quand, j'imagine que c'est un processus que vous avez commencé, que vous avez entamé. Où? New York, Paris?
Ben, dans notre logique, je pense que c'est dans l'état actuel des marchés, c'est les marchés américains, en fait, sont ceux qui sont les mieux positionnés pour soutenir les organisations sur le long terme.
Ouais, d'accord. Et puis c'est une question de valorisation aussi. On a bien compris. J'accueille Julie Ranty, qui était l'ex-patronne de Vivatech, évidemment, aux côtés de Maurice Lévy. Bonsoir, Julie.
Bonsoir, Edwige.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes cofondatrice de Pollen. Pollen, alors vous, c'est toujours autour de l'intelligence artificielle, mais c'est un peu comment ça change le travail. On parlait de l'organisation, comment ça peut changer les entreprises, comment ça va changer les entreprises. Vous regardez, c'est ça où c'est assez complémentaire, comment ça peut, ça va bousculer le future of work, comment dire.
Pollen permet effectivement de se former aux compétences de demain, une des grandes briques étant l'intelligence artificielle, aux côtés d'autres thématiques comme des soft skills qui sont, à mesure qu'on se forme et qu'on développe l'intelligence artificielle, aussi importantes à maîtriser, notamment pour se différencier de la machine et de ces intelligences artificielles qui vont devenir un peu plus.
Est-ce que je vais travailler différent quand, si l'intelligence artificielle elle est appliquée dans mon entreprise? Même en tant que journaliste, c'est vrai que ça va changer.
Je pense que ça va bouleverser tous les métiers. Au début, des gains de productivité. On le voit, ChatGPT, Copilot, qui deviennent des assistants personnels, qui nous aident à rédiger des mails, rédiger des présentations, analyser des données. Après, il y aura une étape, je pense, plus profonde et qui, dans certains secteurs, bouleverse vraiment les métiers qu'on est en train de faire. McKinsey a présenté une étude hier à Vivatech. Il y a un taux de transformation des métiers qui a été multiplié par 2 en seulement 5 ans.
Parce que les métiers, il y a je ne sais pas combien de métiers qui vont être supprimés.
Ouais, et on dit aussi qu'il y a 80% des métiers dans 2035 qui n'existent pas encore. Ce qu'on voit, c'est que les métiers liés autour des compétences les plus humaines, par exemple dans les hôpitaux, les infirmières, les professeurs, les métiers du care vont se renforcer. A contrario, les métiers qui sont le plus automatisables possible vont eux disparaître. C'est plus 30% d'un côté, moins 30% d'un côté. Donc il y a un enjeu de formation, de reskilling de toutes ces populations pour que demain, les hommes, les femmes puissent continuer d'exercer tous leurs talents, mais là où on en aura besoin et là où on sera complémentaire de ce que la machine aura permis de développer.
Est-ce que vous avez l'impression, Florian, quand vous allez voir les entreprises, quelle est la première question qu'elles vous posent? C'est où j'ai un peu peur, comment est-ce que je peux maîtriser? C'est quoi la première question que vous posez? D'abord, est-ce que c'est un DSI ou c'est un DG? À quel niveau vous discutez? C'est intéressant là aussi de savoir.
Actuellement, il y a cette discussion aux deux niveaux. Il y a le DG qui se demande quelles sont les efficacités, quels sont les projets, et le DSI qui se demande bien comment est-ce qu'il va en faire en sorte de mettre ça en œuvre. Il y a un petit peu cette peur et cette tension. Je pense que la question, c'est pas une question de coût, c'est pas une question de risque en ce moment. C'est beaucoup une question d'opportunité. C'est comment commencer? Quels sont les premiers pas qui vont faire qu'on va avoir du succès dans l'intelligence artificielle et créer vraiment des changements dans la manière de travailler?
Et vous, Julie, lorsque vous rencontrez, des salariés qui vont être impactés ou des DRH qui vont être impactés, il y a d'abord un frein, une peur, parce que en fait, on l'a tous sur notre téléphone portable, sur notre smartphone, mais bon, je dois reconnaître, je m'en sers pas encore beaucoup, parce que il y a pas encore ce réflexe.
Ouais, ça fait écho à ce que disait Florian. Le premier cas, c'est identifier les cas d'usage.
Ouais.
Comment est-ce que dans mon secteur, dans mon métier, ça va me permettre d'être plus productif, de générer des nouveaux produits, de construire des nouveaux produits qui vont améliorer l'expérience utilisateur. Et un autre sujet qui est comment j'évite aussi les biais. Puisqu'on le sait, l'intelligence artificielle peut introduire des biais de genre, etc. Et donc, comment est-ce que moi, quand je développe mes produits, je forme en amont mes salariés pour m'assurer qu'ils mettent sur le marché des produits à base d'IA qui soient éthiques et responsables?
On a commencé tout à l'heure en commençant les propos d'Elon Musk là, sur le fait, et même Florian disait, il y a différentes formes d'intelligence artificielle, parce qu'il parlait de, Elon Musk parlait de mensonges, de vérité. C'est peut-être aussi la question, parce que est-ce que l'humain, est-ce qu'il doit être complexé par rapport à l'intelligence artificielle?
Non, je pense que
c'est
une question
que se doivent se poser beaucoup de...
Non, bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, on doit... Pour éviter d'avoir un clivage dans la société, pour éviter d'avoir une société à deux vitesses, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux basiques de l'intelligence artificielle et pas être exclu de cette révolution en cours qui donne accès à des opportunités qui sont assez incroyables. Mais après, l'humain doit au contraire être fier de ce qu'il sait faire et que la machine ne sait pas faire. C'est son esprit critique, c'est la créativité, c'est l'empathie, c'est la capacité à développer une vision, la capacité à emmener des équipes. Que ça, ChatGPT, Copilot, aussi intelligents qu'ils deviennent, ne sauront pas faire.
Vous êtes d'accord, Florian ?
Oui, je pense qu'il y a 20 ans, on a tous appris en fait à rechercher sur Internet. Et ceux qui ont appris il y a 20 ans à bien chercher sur Google, en fait, avaient un avantage compétitif en tant qu'employé, en tant que dans leur vie par rapport à d'autres, parce qu'on a changé la manière de rechercher de l'information. Mais maintenant, ceux qui apprendront à bien utiliser l'intelligence artificielle au quotidien auront un avantage, et donc il faut tous s'y mettre.
Oui. En même temps, on voit comment. Est-ce que vous avez du mal à recruter des ingénieurs, parce qu'on voit bien que la concurrence, elle est rude. Vous, chez Dataiku.
Nous, chez Dataiku, on a.
En fait, vous payez très bien.
Alors, chez Dataiku, en tout cas, je pense qu'on a une marque et un projet d'entreprise, faire de l'IA et faire la plateforme d'IA qui sert toutes les entreprises depuis Paris, en fait, qui attire beaucoup de monde à Paris.
Ouais. Cette concurrence, on la sent bien. Vous étiez, je le disais, patronne de Vivatech. Là, on a le sentiment. Alors, si, il y a Elon Musk qui a parlé, il y a moins des grandes stars, mais en revanche, ça développe un écosystème de start-up quand même assez impressionnant, qui viennent chercher quoi en fait? Qui viennent se serrer les coudes? Qui viennent chercher des financements? Qui viennent quoi à Vivatech?
Vivatech, ça a toujours été vraiment un très grand rendez-vous pour les start-up. Elles viennent avant tout pour développer leur business, pour trouver des clients. Il y a énormément de grands groupes qui sont présents à Vivatech, de grands groupes du CAC 40, de grands groupes internationaux. Donc c'est avant tout pour trouver des opportunités business. Deuxièmement, c'est pour effectivement lever des fonds. On le sait, l'accès au financement s'est durci ces deux dernières années. Là, cette année, on sent que ça commence à se détendre un petit peu et les investisseurs internationaux notamment reviennent et s'intéressent particulièrement à la France qui est très dynamique sur le secteur de l'IA. Et troisièmement, c'est pour recruter les talents puisqu'il y a énormément, et notamment avec la journée grand public, de jeunes qui ont envie de travailler dans les startups qui viennent à Vivatech. Et on le sait, le recrutement, c'est un des sujets clés pour les startups pour continuer leur développement.
C'est clair. Merci Julie Ranty. Donc Pollen, cofondatrice de Pollen. Merci Florian Arduetto. Vous, c'est le patron de Dataiku. L'introduction en bourse, c'est pour quand? Quand est-ce que vous revenez sur ce plateau? Ça sera pour quand?
Non, en fait, c'était hier.
Ah voilà, c'est ça. Oui,
j'ai manqué
quelque chose.
Non, mais c'est parce qu'il y avait Elon Musk.
C'est à cause de l'intelligence artificielle. Voilà, j'ai écouté Elon Musk et c'est l'intelligence artificielle qui ne m'a pas donné cette information. C'est pour vous dire s'il y a encore des progrès à faire. L'année prochaine?
L'année prochaine.
Oui. Au début? Premier semestre? On ne saura pas. Merci.
Merci
en tous les cas d'être venu nous voir.